14h, 14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Certains d'entre vous connaissent le nom de Maria Iudina. Elle fut, jusqu'à sa mort en 1970, une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Alors, avant de vous raconter les circonstances invraisemblables qui l'ont amenée à devenir l'interprète favorite de Staline, laissez-moi brosser un rapide tableau de l'art stalinien et notamment de la musique russe en ce premier tiers jusqu'à la moitié du siècle dernier. La révolution de 1917 a été aussi une révolution musicale très propice à l'audace, à l'expérimentation. Les nouveaux maîtres de la Russie sont issus d'une bourgeoisie intellectuelle qui pensait que l'art devait changer la société, devait édifier les masses. Évidemment, nombreux sont les musiciens qui vont faire comme les grands-ducs, qui vont émigrer, je pense à Igor Stravinsky bien entendu, à Serge Prokofiev ou Nikolaï Metner, mais d'autres croient à la révolution et à ses vertus. Moscou et Petrograd sont le théâtre d'une renaissance artistique incroyable et, pour le distinguer de l'âge d'or précédent, on appelle ça l'âge d'argent de la culture russe. La mort prématurée de Scriabine en 1915 va priver l'ère soviétique de ce qui promettait d'être son chantre, auteur d'une synthèse de courants utopiques et cosmiques. On s'éloigne en tout cas des influences occidentales pour développer une sorte de russité. Il y a un néo-nationalisme musical. Alors, est-ce que j'ai besoin de vous dire que vont se multiplier les hymnes et les mélodies révolutionnaires? Au début de 17, lorsque Nicolas a abdiqué, on a commencé par choisir la Marseillaise comme symbole de fin de l'oppression. C'était un peu l'hymne de tous les révolutionnaires de tous les pays. Seulement, un peu plus tard, avec la révolution d'octobre, on va s'éloigner de la Marseillaise parce que Lénine juge la révolution française encore trop bourgeoise et c'est lui qui favorise l'international. L'International devient en 1918 le nouvel hymne national. On l'entend à la fin des spectacles populaires, on l'entonne dans les manifestations politiques et le régime a bien l'intention de construire quelque chose de nouveau, un héroïsme proprement soviétique où on pourra exalter les combattants révolutionnaires, propager l'idéal communiste à d'autres pays. Tout cela devient très contraignant à partir de 1924. Pourquoi 1924 ? Bien parce que Lénine est mort et qu'au lieu de Trotsky, son dauphin, celui qui prend les rênes de la Russie s'appelle Joseph Staline.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Un nouvel ordre économique s'impose désormais avec pour socle une industrialisation à marche forcée. C'est l'homo sovieticus qui doit devenir l'opposé du pauvre homme exploité par le capitalisme. Staline attache énormément d'importance à ce qui va devenir une propagande. Vous savez, on peut dire d'une certaine façon que tout ce XXe siècle aura été le siècle de la propagande, mais rarement elle a atteint un niveau aussi exceptionnel avec une attention permanente portée aux affiches, aux slogans, etc., qu'à l'époque de Staline. Il est donc important que le pays connaisse une vie artistique riche, reconnue. Quand je dis reconnue, c'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi au-delà des frontières, bien sûr. C'est peut-être surtout au-delà des frontières. L'image véhiculée par l'art réaliste soviétique, par les chansons populaires, c'est l'image d'un pays conquérant qui s'appuie sur une puissance industrielle rayonnante, une puissance militaire aussi, bien sûr. Et pour ça, tous les arts sont mobilisés, et en particulier cette musique qui doit glorifier le régime et son chef. Et Staline est très souvent au concert, hein, comme tous les nouveaux dignitaires soviétiques. Il assiste régulièrement aux représentations du Bolchoï, on le voit au ballet, on le voit à l'opéra, etc. 23 avril 1932, c'est la date maudite par les artistes de la restructuration des organisations littéraires et artistiques. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement ? Bien, toutes les organisations existantes ont été dissoutes d'un coup, y compris les associations prolétariennes, etc. Et ça va donner naissance à de nouvelles unions, notamment l'union des écrivains, l'union des compositeurs. Aucune activité professionnelle désormais n'est possible en dehors de ces espèces d'académies. Les compositeurs vont se voir dans l'obligation d'écrire une musique conforme à la ligne du parti et aux déclarations du camarade Staline. Il faut être joyeux, il faut accompagner le chemin radieux, enfin je vous en passe. et des plus mauvaises encore. Des compositeurs comme Tikhon Khrennikov ou comme Aram Khatchatourian vont pour l'heure être encensés. Il y en a deux autres qui rentrent au pays en 1936, c'est Shostakovich et Prokofiev, et l'un et l'autre vont être régulièrement taxés de formalisme. Et croyez-moi, dans la phraséologie nouvelle, ce n'est pas forcément un compliment. Le chant des forêts de Dmitri Shostakovich, qui lui n'avait pas quitté le territoire de l'Union soviétique, hein, du reste. C'est une musique destinée à exalter la politique agricole de l'Union soviétique, qui d'ailleurs a valu à Shostakovich le prix Staline. Le chœur et l'orchestre de Saint-Pétersbourg étaient sous la direction de Youri Temirkanov.
Vous écoutez Radio Classique.
Et Staline est très intéressé, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il est intéressé par la culture, il aime regarder des films notamment. Entre parenthèses, il se fait surtout projeter des Laurel et Hardy et des films d'Hollywood. Bon, il aime écouter la radio et un soir, alors qu'il écoute la radio justement, il entend le concerto pour piano numéro 23 de Mozart. Et ça peut arriver, figurez-vous, que Staline est touché. Non, il est mieux que ça, il est bouleversé. Il ne peut pas écouter l'œuvre jusqu'au bout néanmoins et il va demander à son aide de camp de lui procurer un disque. Évidemment, répond l'aide de camp, hein, on ne contrarie pas le petit père des peuples. Sauf que, en vérité, ce pauvre homme s'est mis dans une situation très compliquée parce que il appelle la radio de Moscou et on lui dit qu'il n'y a pas d'enregistrement de ce concerto numéro 23. Il s'agit en fait d'un concert en studio. C'est un concert qui a été fait sans public, comme ça se faisait très souvent à l'époque. Et c'était en direct. L'aide de camp se dit que si jamais il n'est pas capable de rapporter cet enregistrement, il risque gros. Il envoie chercher la pianiste, qui était d'ailleurs repartie, et la pianiste en question, c'est une certaine Maria Yudina. Et là, les choses se gâtent, puisque le chef d'orchestre, qui est complètement mort de trac, se désiste, pas moyen de l'avoir pour l'enregistrement. On va vite le remplacer, tout le monde est à pied d'œuvre, et le concerto, en une seule nuit, va être enregistré. Allez hop, gravure directe. Une étiquette est fabriquée pour l'occasion, qu'on colle sur le 78 tours et l'aide de camp récupère la galette. Le lendemain matin, il s'approche de Staline, qui l'apostrophe aussitôt. Il s'est souvenu pendant la nuit qu'on ne pourrait malheureusement pas lui procurer ce disque puisque le concerto de Mozart était une diffusion en direct depuis les studios de Moscou. Oh ! Eh bien, le disque n'en sera pas moins publié quelques semaines plus tard. Et on dit que Staline, dès les premières notes, a fondu en larmes. Pour remercier Maria Yudina, il lui fait attribuer un appartement à Moscou, appartement dont elle cassera les vitres, déclarant qu'elle veut vivre comme les autres Russes. Il n'y a pas de raison qu'elle soit au chaud quand les autres souffrent du froid. Staline lui accorde la somme de 20 000 roubles et Maria Yudina lui écrit en retour qu'elle donnera cet argent à son église pour prier pour son âme en raison des crimes qu'il a commis contre le peuple russe. Mais vous vous rendez compte, nous sommes au pire de la dictature stalinienne et voilà comment elle s'adresse au maître de la Russie. Il faut rappeler quand même que Staline est très superstitieux et que cette artiste très pieuse qui précède chacun de ses concerts de gestes prédicatoires va l'impressionner. N'oublions pas aussi que Staline, avant d'embrasser l'athéisme, a suivi une éducation religieuse. Il a même été au séminaire. Sa mère était une fervente orthodoxe. Donc, si l'on en croit les mémoires de Chostakovitch, le disque de Yudina était sur le lecteur de Staline au moment où on a découvert son corps sans vie. C'est pour vous dire à quel point cette pianiste a compté pour lui. En dépit de la reconnaissance qu'elle pourra avoir envers Staline, Maria Yudina restera jusqu'à la fin très critique envers ce régime soviétique qui heurte les principes fondamentaux dans lesquels elle a été élevée. Elle n'est pas du genre à faire des compromis, cette Maria Yudina. Contrairement à Staline, Khrushchev la détestera ouvertement. Il renoncera aux faveurs que Staline lui prodiguait et en 1960, il la chasse carrément de son poste au conservatoire de Moscou au motif qu'elle s'y serait adonnée à la propagande religieuse et à la défense de la musique contemporaine. Vous aurez compris que nous sommes en présence d'une personnalité tout à fait hors norme. Yudina joue Bach, qui est son compositeur préféré, avec dévotion, mais elle défend aussi les musiques occidentales les plus contemporaines, Alban Berg et Béla Bartok, jusqu'à Pierre Boulez. Khrushchev, par la suite, lui interdira formellement de jouer à Moscou. Ça va durer 5 ans, cette interdiction. Qu'à cela ne tienne, elle ira jouer ailleurs, sans jamais rien abdiquer de cet immense répertoire qu'elle transporte avec elle et avec des habitudes qui ne sont pas tout à fait orthodoxes, en tout cas qui ne sont pas tout à fait soviétiques. Elle porte des espadrilles de sport, elle affiche la croix qu'elle a l'habitude de porter autour du cou. Avant de commencer à jouer, elle se signe quand elle ne récite pas des poèmes de Boris Pasternak. Vous imaginez un peu si elle se fait aimer des apparatchiks. On raconte que lorsqu'elle s'est rendue pour la première fois à Leipzig, elle avait été autorisée enfin à quitter l'Union soviétique, elle aurait traversé la grande place de Leipzig à genoux pour aller se prosterner devant la statue en pied d'un certain Jean-Sébastien Bach. Voici cet incipit du concerto numéro 23 de Mozart qui aurait fait pleurer Staline, et c'est bien Maria Yudina qui était au piano, accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio d'État de l'Union soviétique sous la direction d'Alexander Gauck.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Je vous ai parlé de cette espèce de grand renfermement ou refermement de 1932, avec cette volonté d'asservir les artistes au diktat d'une nouvelle propagande. Voici ce que nous dit Bertrand d'Hermoncourt dans son Dmitri Chostakovitch, paru bien sûr chez Actes Sud. Les associations qui permettaient jusqu'alors aux musiciens de se soutenir et de créer des formes inédites furent dissoutes. Écrivains, compositeurs, peintres étaient regroupés en organisations bureaucratiques hiérarchisées et policées. Tous les artistes étaient invités à y adhérer. Dans les faits, il ne pouvait en être autrement pour qui souhaitait travailler. Parmi les œuvres scéniques de cette époque, évidemment, la Lady Macbeth de Mzensk de Dmitri Chostakovitch, créée à Leningrad, puisque c'est ainsi maintenant qu'on appelle la ville, en 1934. Chostakovitch se concentre dans cet opéra sur des aspects sombres de l'histoire russe, sur sa misère, la misère sexuelle de cet empire. Il crée un langage musical assez qui synthétise en quelque sorte tout ce qu'on avait connu au XIXe siècle, mais aussi tout ce qu'on connaissait depuis toutes les avancées de la musique du XXe. En janvier 1936, Staline et son entourage assistent à une représentation de Lady Macbeth de Mzensk, donc. Et quelques jours plus tard, Chostakovitch ouvre la Pravda et voilà ce qu'il lit. « Le chaos remplace la musique ». Et il n'a pas compris que c'est son opéra qui a été joué plus de 200 fois en moins d'un an dont il est question. Vous imaginez un peu ce qui est en train de se passer. Et puis il voit apparaître les mots « Lady Macbeth de Mzensk ». Et cette mise à l'index avec l'élucidation du titre, il s'agit d'un chaos gauchiste remplaçant une musique naturelle et humaine. La faculté qu'a la bonne musique de captiver les masses est sacrifiée sur l'autel des vains labeurs du formalisme petit bourgeois. Alors là, quand vous avez les trois mots réunis, c'est une condamnation sans appel. Et la poursuite de l'article laisse planer sur Chostakovitch une véritable menace. Ça peut vouloir dire pour Staline qu'il soupçonne d'avoir dicté le papier deux jours après avoir vu la représentation. On fait l'original en pensant créer l'originalité, où l'on joue à l'hermétisme. C'est un jeu qui peut très mal finir. Bon, c'est comme s'il recevait carrément une mise en garde du Kremlin, ce pauvre Chostakovitch qui pense déjà au goulag, qui voit déjà se profiler la mort. Le compositeur arrivera à s'en sortir en faisant une sorte de grand aggiornamento. Il va composer des œuvres moins susceptibles de choquer le régime, mais son opéra va rester interdit en Union soviétique jusqu'à la mort de Staline. Curieux quand même d'observer que c'est une fois la guerre finie et la paix retrouvée que les persécutions contre les compositeurs reviennent en force. Andriy Jdanov, le terrible Jdanov, qui compte parmi les plus proches collaborateurs de Staline, qui en est en quelque sorte le bras exécutif. En 1948, il n'a plus que quelques mois à vivre, il mourra cette même année à 52 ans. Il aura quand même le temps, au nom du réalisme socialiste, d'écraser le semblant de vitalité des arts qu'a pu connaître l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1948, le fameux décret Jdanov va ébranler la Russie soviétique avec des persécutions perpétrées dans tout le milieu culturel contre tout ce qui ne s'accorde pas avec la doxa du régime. C'est la suite logique de la convocation au Kremlin en 1946 de toutes sortes de compositeurs. Il y avait là-dedans Prokofiev, Chostakovitch, Khatchatourian, Miakovsky, etc. Jdanov les avait tous convoqués pour condamner les artistes fautifs, je cite, dont l'œuvre révèle la façon particulièrement évidente, de façon particulièrement évidente, certaines déviations formalistes des tendances musicales antidémocratiques étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques.
Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous ne comprendriez pas que je conclue cette émission sans rappeler la coïncidence célèbre qui a marqué la mort de Staline le 5 mars 1953, puisque ce même jour s'éteint bien sûr Serge Prokofiev, emporté par une hémorragie cérébrale et inhumé à Moscou dans le cimetière de l'ancien monastère de Novodiechny, pas très loin de Scriabine et de Tchekhov. Par hasard, il se trouve que Staline va expirer quelques heures après lui. Et le 6, le corps embaumé du dictateur est exposé dans la salle des colonnes avec des funérailles qui attireront une foule complètement démente. Le 9 mars 1953, la cérémonie funèbre de Prokofiev s'était déroulée l'avant-veille en très petit comité, vous imaginez bien. Voici ce qu'un journal soviétique rapportera. Le compositeur soviétique Prokofiev est mort, hélas, le jour où fut annoncée la tragique nouvelle de la maladie du grand Staline. En conséquence, l'annonce de sa mort n'a pu paraître dans la presse soviétique que quelques jours plus tard. Oui, c'est comme ça, le terrible tyran, même après sa mort, aura continué de faire un peu plus que de l'ombre à tous ses artistes.
Vous écoutez Radio Classique.